9, 8, 7, 6, 5.
Very happy to see you.
Nous sommes sur France Culture pour parler de dernières nouvelles de l'univers.
Dernière nouvelle de l'univers, André Brahic.
D'abord, posons-nous les questions suivantes. Ce sont des questions très anciennes que les Grecs se posaient, il y a bien longtemps. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Alors, je ne répondais pas comme Pierre Dac qui disait « Je viens chez moi, j'y retourne ». Je vais essayer d'être un peu plus sérieux. Et je vais essayer de vous parler des problèmes de l'origine. Comment tout ceci a-t-il commencé? Où en sommes-nous? Alors, avant de parler de l'origine de l'univers, je pense qu'il est important de faire l'inventaire. Qu'y a-t-il dans l'univers? Il y a l'univers que l'on voit avec nos yeux, à l'œil nu. Que voyaient nos ancêtres il y a de cela 5000 ans, 10 000 ans, etc. Il y a l'univers que l'on voit avec nos lunettes, nos télescopes, dans les grands observatoires. Mais il y a aussi toutes ces lumières que nos yeux ne voient pas et que nos instruments ont pu capter. Alors essayons de faire un petit peu le bilan. Quand on regarde le ciel à l'œil nu, on voit des étoiles, on voit des planètes, on voit quelques nébulosités, si on t'en demandait ce que c'était. Tout ceci semble réparti de telle manière que, pendant des millénaires, nos ancêtres ont cru que la Terre était immobile au centre de l'univers. Alors, je voudrais faire d'abord une première remarque. Je voudrais inviter chaque auditeur à regarder une fois dans sa vie le ciel à l'œil nu. Nous vivons dans des villes avec un éclairage public qui nous masque le ciel. Nous allons à la campagne. Il y a des voitures qui passent, il y a des maisons éclairées, il y a une lampe électrique qu'on a dans sa poche et qu'on allume. Tout ceci fait que nos yeux sont perturbés. Une fois dans votre vie, mettez-vous à un endroit où il n'y ait aucune lumière électrique dans les centaines de kilomètres à la ronde. Ceci m'est arrivé il y a 6 ans, dans le désert du Ténéré. J'étais parti là-bas, endroit un petit peu incertain en ce moment, mais je vous dirai où aller, avec qui aller si vous m'envoyez un message. Eh bien, dans ce désert, je me suis retrouvé à 450 km de toute lumière. J'étais avec les Touaregs. Pourquoi j'étais allé là-bas? J'étais allé là-bas pour voir une éclipse de soleil, dans des conditions un petit peu uniques. Une éclipse qui avait lieu entre l'Atlantique et la Turquie, et c'était l'endroit idéal pour voir cela. Alors, tous mes amis rigolaient, parce que, à mon âge, j'aime un certain confort. Quand je vais à l'hôtel, je choisis des hôtels avec beaucoup d'étoiles. Je suis astronome, c'est normal. Et donc, dans un tel désert, vous n'avez évidemment pas d'hôtel. On couche à la belle étoile. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai couché à la belle étoile. Eh bien, cette expérience est extraordinaire. Quand la nuit est tombée, il n'y avait pas de lune. On ne voyait plus la Terre. On ne voyait plus qu'une seule chose, le ciel. Autrement dit, j'étais allongé sur le sol et je flottais dans l'espace, dans le ciel. Alors je me suis dit d'abord, mais c'est extraordinaire, je ne vais pas dormir de la nuit tellement c'est beau. Bon, en fait, 5 minutes après, je dormais comme un loir. Et quand je me réveillais dans la nuit, ce n'était pas utile de regarder ma montre. Parce que je voyais si la Voie lactée avait tourné beaucoup ou pas beaucoup. Si elle était encore au milieu du ciel, c'est qu'on était au milieu de la nuit. Si elle était proche de l'horizon, c'est que le petit matin allait apparaître. Et je me suis retrouvé, ces nuits-là, dans les conditions qu'ont connues nos ancêtres. Il y a 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, etc. Et je peux vous dire, quand vous avez vécu ça, vous ne voyez pas le monde de la même manière. J'ai compris ce jour-là comment les philosophes grecs se sont mis en place. J'ai compris ce jour-là les grandes questions que les hommes se sont posées. Et hélas, avec l'éclairage public, actuellement 50% de l'humanité ne voit plus la Voie lactée. À chaque élection municipale, j'interviens à la radio et à la télévision pour dire que je voterai pour le maire qui supprimera l'éclairage public. On verra enfin le ciel objet de culture. Vous comprenez que je suis peu écouté. Mais il est clair que c'est compliqué. Si vous avez voulu voir le ciel, ne vous mettez pas à bord d'une route. Même sur un bateau, il y a une petite lumière qui brille. Même dans nos observatoires, j'étais observé au Chili, à Hawaï, en Australie, là où sont nos observatoires, il y a toujours la lumière de la sortie de secours, la lumière du restaurant qui est situé à côté. Nos yeux sont perturbés par cela. Et les lumières du ciel sont plus faibles que des bougies placées à 20 km. Donc, ayez une fois dans votre vie cette expérience, je vous certifie que vous ne serez pas le même après. Alors, ce ciel à l'œil nu, on a imaginé que la Terre était immobile au centre. C'est ce qu'a prétendu Aristote, ce qu'ont prétendu d'autres. Quels étaient leurs arguments? Eh bien, quand vous êtes sur Terre, vous avez l'impression que le ciel tourne dans son ensemble. Vous n'avez pas le sentiment que vous bougez. Et savez-vous qu'un des arguments d'Aristote était de dire que la Terre était immobile au centre de l'univers pour une bonne raison, c'est que les oiseaux se reproduisaient. Ah bon, vous allez me dire quel rapport? Eh bien, tout simplement parce qu'Aristote disait, imaginons qu'un oiseau qui met ses œufs dans son nid s'envole. Si pendant qu'il vole, la Terre a bougé, il ne retrouve plus son nid. Et donc, c'est bien la preuve que la Terre est immobile. Vous voyez le type d'argument? Il n'a évidemment pas compris, comment dirais-je, le principe d'inertie, trouvé plus tard par Galilée et autres. Et donc, dans ce qui était le dogme de l'époque, la Terre immobile au centre, eh bien, il a fallu trouver un modèle. Eh bien, c'est Ptolémée qui l'a trouvé, en plus 150, qui a imaginé un modèle avec une série de cercles emboîtés, on appelle ça des épicycles. Et mon prédécesseur à l'Université de Paris, en 1255, il s'appelait Jean du Sacré-Bois, Johannes Arbosco, si vous préférez. Il enseignait aux étudiants que le mouvement des planètes s'expliquait par 72 épicycles imbriqués les uns dans les autres. Comme je dis à mes étudiants, il fallait connaître chaque épicycle par son petit nom. Les examens de l'époque étaient beaucoup plus compliqués qu'aujourd'hui. Et donc, ce modèle de Ptolémée est complètement faux. Nous savons tous que la Terre n'est pas immobile au centre de l'univers. Et pourtant, si vous voulez savoir où sera Jupiter dans le ciel, le 13 mars 2153, ce modèle vous donne la réponse. Et vous comprenez une chose, c'est qu'en science, un modèle n'est pas une affirmation de la vérité. Un modèle est un outil qui permet d'avancer. C'est pour ça que quand on vous parle de la lumière, de la matière à l'infiniment petit, etc., les modèles que nous avons actuellement ne sont pas forcément une compréhension profonde du phénomène, mais sont des outils extrêmement utiles pour progresser et pour faire des découvertes. Et regardez comment le sujet est sensible. Giordano Bruno, le 17 février 1600, a été brûlé en place publique à Rome pour avoir osé dire que la Terre n'était pas immobile au centre de l'univers, que les étoiles étaient des soleils lointains, qu'elles devaient être entourées de planètes. Il avait dit tout cela, chose qu'on enseigne chaque jour à l'université, il était brûlé en place publique. Bon, il avait aussi dit que Marie n'était pas vierge, ce qui n'avait pas plu. Hein. Mais quand vous allez à Rome, je vous recommande d'aller au Campo du Foro, là où il y a sa statue, à 200 mètres du Palais Farnèse, où l'ambassade de France, pour rendre hommage à Giordano Bruno. Et je vous signale au passage d'ailleurs qu'il y a au pied de cette statue un petit marché où la mozzarella est excellente. C'est une des meilleures de Rome, hein, je vous la recommande. Alors maintenant, essayons de voir de quoi est composé le monde. Eh bien, l'œil nu ne suffit pas, évidemment. À l'œil nu, on voit en gros 3000 étoiles. Si vous faites tout le tour de la Terre, vous en voyez 6000 au total. Je vous rappelle qu'actuellement, nous connaissons quelques milliards d'étoiles. Donc on ne voit qu'une toute... On voit l'approche banlieue, en quelque sorte. On voit un tout petit nombre d'étoiles. Galilée utilise la lunette. Là, on est au début du XVIIe siècle, c'est 1600 et quelques. Eh bien, vous savez qu'à l'époque, les opticiens, en polissant des verres, s'étaient rendus compte qu'on pouvait faire des lentilles. Et c'est un métier qui a rapporté beaucoup d'argent, parce que les hommes âgés sont en général plus riches que les hommes jeunes. Mais les hommes âgés, on l'a vu, qui baissent. Et donc, ils achetaient des lunettes pour mieux voir et ils payaient bien les opticiens. Et il y a des gens qui se sont rendus compte, si on mettait à la bonne distance de lentilles face à face, eh bien, on avait soit une lunette astronomique, soit un microscope. C'était un engin couvert du secret militaire. C'est-à-dire, on regardait avec la lunette ce que faisait l'armée en face. Et Galilée, plus intelligent que les autres, s'est dit, c'est pas très intéressant de regarder l'armée en face, ils sont tous habillés pareil. C'est pas, ça manque de variété. Par contre, il a regardé le ciel et là, il a fait une moisson de découvertes. Où, au mois de juillet 1610, la plus grande moisson probablement de découverte qu'on ait faite dans l'histoire de l'humanité, il trouve des taches sur le Soleil, des cratères sur la Lune, des anneaux autour de Saturne, des amas d'étoiles, enfin il trouve plein de choses. Et il trouve une chose qui donnait un coup de canif dans le dogme, à savoir qu'il voyait des satellites qui tournaient autour de Jupiter. Et ça veut dire que dans l'univers, il existait des objets qui tournaient autour d'autre chose que la Terre. La Terre n'était pas au centre de toute chose. C'est amusant de constater qu'à la même époque, les jésuites ont fait la même observation. Et un de mes amis, qui est professeur à la Sapienza à Rome, m'a offert le facsimilé d'un manuscrit qui était à la bibliothèque du Vatican, dans lequel les jésuites écrivent en latin cette découverte. Et en marge, ils écrivent en italien une petite remarque, je traduis un petit peu librement la remarque, c'est « sujet politiquement sensible à ne pas mettre entre toutes les mains ». Vous voyez que la science et la vie et la politique, ça va ensemble, en quelque sorte. Alors que les lunettes de Galilée, on trouve plein de choses, et puis on invente des lunettes de plus en plus grandes, et puis des télescopes de plus en plus gros, et on voit l'univers. On ne voit pas forcément plus loin, mais on voit mieux ce qui est loin. Et la grande découverte se fait en fin de XXe siècle, au début de XXIe, on capte les lumières que nos yeux ne voient pas. Je veux dire par là la lumière radio, la radioastronomie, la lumière gamma, la lumière X, la lumière ultraviolette, la lumière infrarouge. Eh bien, ces astres émettent ces lumières. Nous connaissons. Quand vous écoutez France Culture, c'est des ondes radio qui sont propagées pour vous donner l'information. Quand vous êtes à une terrasse de café et que c'est l'hiver, il fait froid, c'est de l'infrarouge qui vous chauffe. Quand vous rentrez chez vous le soir, vous faites cuire un poulet aux ondes micro-ondes. Quand vous avez mal à la jambe, vous allez à l'hôpital et puis on vous fait une radio en X, en rayons X, pour voir si c'est une fracture ou pas. Quand vous avez un cancer, on vous soigne avec rayon gamma. Quand vous êtes en train de bronzer sur la plage en maillot de bain, c'est un ultraviolet qui vous font bronzer. Autrement dit, ces rayonnements, on les connaît. Nos yeux ne les voient pas, c'est pas utile, mais les astres émettent ce rayonnement. Et du coup, le monde que nous observons n'a plus rien à voir avec le monde que voient nos yeux. Nos yeux voient un monde qui paraît serein, immuable, n'ayant pas changé. Si Aristote revenait ce soir, il dirait « j'avais raison de dire que la Terre était immobile au centre de l'univers. C'est pareil que de mon temps. » Et je lui dirais « Mon petit, t'es un grand impatient. Attends 50 000 ans, tu verras, ça changera. Simplement, ce monde qu'on voit avec nos yeux paraît immuable. » Eh bien, le monde que tous les rayonnements nous envoient, il est changeant. Il est bouillonnant. C'est tous les soirs le 14 juillet. C'est une fête permanente. Imaginez ce qu'aurait été notre métaphysique si on avait vu un monde aussi bouillonnant que ce qu'il est en réalité. Et vous voyez aussi le lien qu'il y a entre la science et l'économie, entre la science et la croissance, entre la science et le progrès. Par exemple, la radioastronomie. Comment a-t-elle été inventée ? Dans les années 1930, quelques théoriciens ont imaginé que ces ondes existaient et ont essayé de les capter. Et puis la guerre éclate. Alors les avions allemands aller bombarder les villes anglaises au petit matin. Mais les avions allemands venaient de l'Est. Donc les radars anglais qui essayaient de capter la présence des avions allemands s'étaient rendus compte que quand l'avion venait avec le soleil dans le dos, il n'était pas détecté. Et donc c'était un secret militaire, les Allemands n'étaient pas au courant que quand leur avion avait le soleil dans le dos, les radars ne les voyaient pas. Donc ils allaient bombarder sans être attaqués. Et donc ce qui était un secret militaire à l'époque, après la guerre, a été dévoilé. Et du coup les astronomes ont pris tous ces radars qui ne servaient plus à rien. Et ils ont examiné le ciel avec. Il en est de même pour l'infrarouge, il en est de même pour le rayon gamma, il en est de même pour tous ces rayonnements, avec un aller-retour. De temps en temps, on le trouve dans la société, on l'applique en astronomie. De temps en temps, on le découvre en astronomie, et il y a des applications dans la société. Alors tous ces rayonnements, évidemment, nous donnent un monde complètement différent. Et simplement, pour essayer de nous faire comprendre ce qu'il y a, dans la vie, sur Terre, quand vous voulez connaître un objet, vous avez vos cinq sens. Le toucher, l'odorat, le goûter, l'ouïe, la vue. Et vous utilisez vos cinq sens pour comprendre ce qui vous entoure. Nous, en astronomie, on ne peut pas goûter les étoiles, on ne peut pas toucher le soleil, on ne peut pas écouter les galaxies, on ne peut pas goûter les planètes. Et donc ça veut dire que nous n'avons qu'un sens, la lumière. Donc déjà, nous sommes un petit peu restreints, en quelque sorte. Et que nous donne la lumière ? Eh bien, c'est très simple. Écoutez, quand moi j'avais 2 ans, on se chauffait au charbon chez moi. C'était le cas de tout le monde, un peu après la Seconde Guerre mondiale, on se chauffait au charbon. Alors, à l'âge de 2 ans, j'avais vu que le charbon était noir, et quand on mettait sa main sur le charbon, on pouvait dessiner avec. Alors, ce que je faisais, je mettais mes mains sur le charbon, et je faisais des dessins sur le mur, ce qui énervait beaucoup ma maman, parce que j'en mettais partout. Et donc, je me faisais gronder, parce que je faisais des dessins avec le charbon. Et puis, quand le feu était allumé, le charbon était rouge. Eh bien, en mettant la main dedans, je l'ai fait une fois, je ne l'ai pas fait 2 fois. J'ai compris à 2 ans que la couleur vous donne la température. Et donc, vous voyez bien que nos sens nous donnent plein d'indications. Eh bien, la lumière nous donne la température, la chaleur, le spectre qu'on peut prendre nous donne comme une empreinte digitale, les éléments qui sont en jeu. Et chaque autre lumière va nous donner des informations de nature différente. Le ciel en rayon gamma n'est pas le même que le ciel en rayons X, le ciel en ultraviolet, le ciel en infrarouge, etc. L'image que j'ai envie de vous donner, c'est la suivante. Imaginez que ce soir, vous alliez à un concert. Vous allez assister à un concert. Vous dites, oh, il y a un astronome sur France Culture, j'ai rien compris à ce qu'il m'a raconté, alors je vais me détendre, je vais écouter un bon concert. Et il y a 150 instruments. Et vous rentrez dans la salle de concert, vous êtes sourd, vous n'entendez rien. Alors vous secouez votre oreille, et à force de secouer l'oreille, vous entendez un instrument. Et supposez que ce soit le triangle qui joue 3 fois dans la soirée, vous vous ennuyez. Eh bien, vous secouez à nouveau l'oreille, et brutalement vous entendez les 150 instruments. Et vous avez toute la symphonie. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé aux astronomes. Jusqu'à présent, ils n'avaient que la lumière visible. Aujourd'hui, dans toutes les lumières, ils ont la symphonie de l'univers. Et cette symphonie nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, dans l'inventaire, qu'y a-t-il dans le ciel ? Il y a des étoiles. Les étoiles, ce sont des soleils. Il y en a des plus gros, il y en a des plus petits. Et nous verrons dans un petit peu plus tard que il y a les gros qui vivent bien, ça dure pas longtemps, mais ils apportent beaucoup de choses. Et les petits qui sont, ils font pas d'excès, ça dure très longtemps, ils s'ennuient beaucoup, mais ils apportent autre chose. Et puis il y a aussi les galaxies. Qu'est-ce qu'une galaxie ? C'est un ensemble d'étoiles. Les étoiles, en gros, vivent en communauté. Une galaxie, la nôtre, on la voit par la tranche, c'est la Voie lactée. Une galaxie contient en gros entre une centaine et un millier de milliards d'étoiles. Et nous connaissons pour l'instant environ quelques milliers de milliards de galaxies. Donc à l'instant où je vous parle, il y a quelques milliers de milliards d'étoiles. Je ne parle pas de celles qui sont déjà mortes ou de celles qui ne sont pas encore nées. Il y a du monde, vous voyez. Et puis, il n'y a pas que ça. Entre les étoiles, il y a des milieux interstellaires. On n'avait pas compris, au 19e siècle, qu'entre les étoiles, il y a de la matière. Et il y a de la matière première formée des étoiles. Nous en reparlerons. Et puis, le ciel, c'est un peu comme une bonne bouteille de champagne. Il y a plein de bulles de tous les côtés. C'est la fête sans arrêt. Alors ces bulles, c'est de temps en temps des étoiles en train de se former, mais de temps en temps des étoiles qui ont explosé. Et d'ailleurs, le 11 novembre, je fête l'événement, parce que le 11 novembre 1572, Tycho Brahe a observé pour la première fois un scientifique a vu une étoile en train d'exploser, une supernova. Et c'est comme ça que nous sommes nés. C'est de là que nous venons. Je vous en reparlerai. Et il y a aussi des trous noirs. Alors le mot trou noir est un peu magique. C'est rien d'extraordinaire. Ça a été imaginé par Laplace et par un moine anglais à la fin du XVIIIe siècle. C'est simplement que vous avez beaucoup de matière dans un tout petit volume. Et donc la vitesse d'évasion est tellement élevée qu'elle est plus grande que la vitesse de la lumière. Rien ne peut en sortir. Rien ne sort d'un trou noir. Et évidemment, on ne voit pas les trous noirs. Rien n'en sort, même pas la lumière. Donc en gros, comment observer ces objets ? Eh bien, je dirais les trous noirs, ce sont des gargantuas. Quand vous voulez connaître quelqu'un, vous l'invitez à dîner et voyez comment il se comporte. Il y en a qui chipotent. « Oh, moi, je prends pas d'alcool, moi, je mange très peu, etc. » Il y en a qui se mangent comme des goinfres. Il y en a qui apprécient. Il y en a qui ont de la sensualité. Il y en a qui connaissent le vin, qui sont civilisés, ceux-là. Eh bien, ça veut dire que vous avez plein d'informations sur votre convive en regardant comment il mange. Eh bien, c'est comme ça que dans la nature, vous regardez les trous noirs. Les trous noirs, ils absorbent tout ce qui passe à leur voisinage. Eh bien, je peux vous dire, ils se comportent comme des goinfres. C'est des vrais gargantuas. Ils en mettent partout. Et donc, de cette matière qui tombe dans un trou noir, qui en tombant frotte, qui en frottant chauffe, qui en chauffant émet de la lumière, nous l'observons. Et quand nous assistons au repas du trou noir, nous avons une idée sur ce qu'est l'ogre au centre. Et au-delà de ça, tous ces objets, ces étoiles, ces galaxies, tous ces objets y rentrent en collision. Et ces collisions sont quelquefois spectaculaires. Par exemple, notre Voie lactée rentrera en collision avec la galaxie Andromède, qu'on peut voir à l'œil nu. Et donc, notez bien dans votre agenda, ce jour-là, il y aura dans le ciel deux Voies lactées, avec une flambée de petits bébés, parce que deux galaxies en collision, ça fait plein de nouvelles étoiles. Donc notez bien dans votre agenda, le spectacle sera merveilleux, et ceci aura lieu dans un tout petit peu moins de 4 milliards d'années. Quelle est l'origine de l'univers ? Voilà une question bien passionnante et que les hommes se posent depuis bien longtemps. Alors déjà, sur France Culture, je vous annonce une dernière nouvelle. Depuis le mois de mars 2013, nous avons vieilli de 80 millions d'années. Il faut le savoir. Alors, si nous essayons de comprendre ce qui se passe, regardez les progrès que nous avons faits depuis pas très longtemps. Il y a environ 150 ou 200 ans, beaucoup d'hommes étaient persuadés que l'univers avait 6000 ans. Ils avaient compté les générations de l'Ancien Testament et ils trouvaient cet âge-là. À l'époque de Buffon, il se demandait quelle était l'origine de la Terre. Il avait lancé un boulet de canon, il regardait combien de temps mettait le boulet pour se refroidir. Il avait extrapolé la Terre, il trouvait 70 000 ans, etc. Et ce n'est que vers les années 1930-1940 que nous avons compris que l'âge de l'univers et son expansion se chiffraient en milliards d'années. Alors reprenons tranquillement cette histoire. La question posée étant, quelle est l'histoire et quelle est la géographie de l'univers? Alors la géographie de l'univers, c'est comment se répartit la matière? Première remarque, la matière n'est pas répartie de manière homogène, uniforme. Mais l'ensemble de la matière se répartit dans des galaxies. J'ai envie de vous dire que un physicien, c'est un monsieur qui étudie un ensemble d'atomes. Un chimiste, un monsieur qui étudie un ensemble de molécules. Un biologiste, un monsieur qui étudie un ensemble de cellules. Un astronome, c'est un monsieur qui étudie un ensemble de galaxies. Vous avez compris que la galaxie, pour l'astronome, ce qu'est l'atome au physicien, la molécule au chimiste ou la cellule au biologiste. Toutes ces galaxies ne se répartissent pas n'importe comment. Elles se répartissent en amas. Chaque amas de galaxies comporte entre quelques dizaines et quelques centaines d'objets. Par exemple, nous vivons dans un amas local qui comprend 20 ou 30 galaxies. Nous sommes dans une banlieue tranquille avec des voisins sages qui ne font pas d'excès dans un petit immeuble. Hein, c'est là où on vit. Donc ces amas de galaxies sont ensemble. Mais quand vous regardez comment ils se répartissent, vous constatez que l'ensemble de la matière de l'univers se répartit sous forme de filaments. Si vous prenez une photographie, je vais dire quelque chose comme un peu idiot. Si je sortais de l'univers, c'est idiot, je ne peux pas sortir de l'univers, parce que l'univers, c'est tout. Mais si j'en sortais, je verrais une espèce d'immense éponge. C'est-à-dire avec des filaments, où je pourrais aller d'un côté à l'autre de l'univers, en passant par les vides ou en passant par les pleins. Donc l'univers ressemble à une immense éponge. Ne me demandez pas pourquoi. C'est ce qu'on observe. Alors comment cette immense éponge a-t-elle été mise en place? Alors pour cela, quatre personnages en jouent un rôle essentiel. Il s'agit d'Albert Einstein, d'Edwin Hubble, de Georges Lemaître et de Georges Gamow. Albert Einstein, vous le savez, c'est le début du XXe siècle. Il observe que la lumière se déplace à vitesse finie. Autrement dit, quand vous regardez loin dans l'univers, vous regardez en même temps loin dans le passé. Et qu'on ne pourra en aucun cas avoir une simultanéité. Autrement dit, que l'espace et le temps se mélangent. Et donc, on ne parle plus en temps séparé de l'espace, c'est ensemble. Il invente ce qu'on appelle la relativité restreinte, 1905. Il la généralise, la relativité générale, en 1915. Et on peut considérer cette théorie comme une généralisation de l'approche de Newton, qui avait compris la gravitation. Autrement dit, il ne met pas au panier la gravitation de Newton, simplement, il la précise dans deux cas de figure particuliers. Si on se déplace à grande vitesse ça veut dire près de la vitesse de lumière, 300 000 km par seconde, ou bien si on est près d'une masse importante. Donc les lois de Newton marchent parfaitement pour notre monde à nous, sur Terre, mais dans le cas d'une très grande vitesse ou d'une très grande masse, il faut prendre les lois d'Einstein. Donc on a en main une théorie de la gravitation, 1915. À la fin des années 1920, Edwin Hubble observe le ciel avec son assistant qui s'appelle Masson, dans un télescope qui est situé au-dessus de Los Angeles, Mont Wilson. Je vous fais remarquer au passage que les États-Unis avaient voulu mettre en place ce télescope en 1905-1910 et avaient demandé à la France de construire l'optique, puisque la France était le premier au monde. Entre-temps, on a fait la Première Guerre mondiale, histoire de bien se briser les reins, donc les États-Unis ont construit leur propre télescope eux-mêmes. On a aussi fait une Seconde Guerre mondiale pour être sûr de se mettre totalement à genoux. Alors, de ce télescope du Mont Wilson, eh bien, Hubble trouve une chose extraordinaire. C'est que plus un objet est loin de nous, plus il s'éloigne de nous rapidement. C'est un effet qui a été découvert par deux physiciens, un physicien autrichien qui s'appelait Doppler, un physicien français qui s'appelait Fizeau, les fameux effets Doppler-Fizeau, qui fait que si vous regardez un objet, vous êtes capable de dire qu'il s'éloigne de vous si c'est la lumière est déplacée vers le rouge et qu'il s'approche de vous s'il est déplacé vers le bleu. C'est la même chose que si vous mettez près d'une voie ferrée ou près d'une route, eh bien quand le train passe ou quand la voiture passe, la hauteur du son varie. Vous voyez la hauteur du son qui varie, parce que quand l'objet s'approche de vous, les ondes sont comprimées, et quand elles s'éloignent, les ondes sont étirées. Donc c'est cet effet, vous savez combien je vante la vulgarisation scientifique, mais là c'est un effet qu'on n'aurait jamais dû vulgariser, parce que hélas, la gendarmerie s'en est emparée pour installer ces engins stupides du bord des routes qu'on appelle des radars, et dont ils font un très mauvais usage. Hein. Mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Et donc en gros, Edwin Hubble constate que les galaxies s'éloignent de nous. Et du coup, c'est une observation, on comprend dès les années 1930 que l'univers est en expansion. Alors attention, expansion, ça ne veut pas dire qu'on est au centre du monde et que c'est par rapport à nous. Vous savez ce tableau d'Escher, ce tableau qui représente une structure métallique infinie. Vous voyez des mailles et des traits métalliques infinis. Bien, imaginez que je chauffe cette structure métallique infinie, elle se dilate. Et donc chaque maille s'éloigne de tous les autres. Donc il n'y a pas de centre, nous ne sommes pas au centre. Mais chaque objet s'éloigne de tous les autres. Expansion de l'univers, c'est une observation, c'est un fait. Un petit peu, à peu près à la même époque, des années 1930, 1940, 50, Georges Lemaître, qui est un Belge, lui, il dit, mais voyons, si l'univers est en expansion, remontons le film à l'envers. Et tout ça a dû commencer à un moment où tout était rassemblé, en un seul point, un tout petit volume en quelque sorte, tout était tout rassemblé. Et si on remonte le film à l'envers, on a l'âge. Ça s'est passé quand ? Donc, Lemaître donne cette idée. La Lance, il était extrêmement modeste. Il aurait pu avoir beaucoup de publicité. Il aurait, à mon avis, dû avoir le prix Nobel pour cela, mais enfin, peu importe. Hubble n'a pas eu non plus, d'ailleurs, pour cela. Et donc, on a compris que certains même ont émis l'idée d'un atome primitif. Est-ce que nous serions issus d'un atome primitif ? C'est pas du tout ça, la solution. Je vais en dire deux mots. Mais on a vu qu'on pouvait remonter le film à l'envers. Et en 1945, 46, 47... Un physicien qui s'appelle Georges Gamow, qui avait beaucoup d'humour. Ça aussi, j'insiste sur ce point. Quand les gens manquent d'humour, en général, ils ne sont pas très bons. Hein. J'ai toujours constaté que les gens qui se prennent au sérieux le sont rarement. Et ceux qui ne se prennent pas au sérieux le sont quelquefois. Et donc, en gros, Georges Gamow, il dit, mais voyons, si je remonte le film à l'envers, il va y avoir un moment où tout va être rassemblé sur un tout petit volume. Et la matière et les rayonnements vont être mélangés. Vous savez tous que si vous allez au bord de la mer en plein mois d'août dans l'hémisphère nord, vous êtes au soleil, vous avez un coup de soleil. Vous ne restez pas une heure sous le soleil. Autrement dit, le rayonnement du soleil agit sur votre corps et vous brûle. Mais le soleil, ce n'est pas grand-chose, c'est quelques milliers de degrés qui partent du soleil. Mais les températures dans cet univers sur lequel on remonte en arrière, on est là à des milliards de milliards de milliards de degrés. Georges Gamow se dit, mais le rayonnement doit être tellement fort que même la matière n'existe pas. Donc au début, il y a dû avoir que du rayonnement. Si un grain de matière veut apparaître, un quark, un électron, que sais-je, il reçoit une paire de claques, va te coucher, t'as rien à faire ici. Il n'y a que du rayonnement dans l'univers. Donc c'est cette idée que donne Georges Gamow. Et comme il avait beaucoup d'humour, il s'appelle Gamow, ça commence par un G, il a pris un de ses étudiants qui s'appelle Albert, commence par un A, il a pris Hans Bethe, qui était un physicien allemand, commence par un B, et il a appelé l'alpha, bêta, gamma. Donc il a mis comme co-auteur deux personnes qui étaient à peine au courant du sujet, et c'était l'alpha, bêta, gamma. Il a fait un papier qui était un papier humoristique, en quelque sorte. Ce papier a été connu à l'époque, sans plus que ça. Et puis là, nous sommes dans les années 1963, à peu près. Et deux ingénieurs radioélectriciens, deux étudiants de qualité, sérieux, sont embauchés pour un stage par la Bell Telephone Company, qui était un gros monopole des communications téléphoniques. Et ils construisent une antenne de communication. Et comme ils sont très sérieux, ils font un travail impeccable. Et là, parasitage. Ah, ils se disent, c'est l'armée qui envoie ces signaux. Ils disent aux militaires, arrêtez-moi cette émission de signaux. Militaire arrête, parasitage. Ah, c'est la station de radio voisine qui nous parasite. Arrêtez-moi ces émissions de radio. Ils arrêtent, parasitage. Ah, c'est les pigeons qui font leurs besoins dans l'antenne, et donc ils nettoient les fientes de pigeons. Parasitage. Ils écrivent donc un article qu'ils appellent « De l'antiparasitage de l'antenne radio ». Vous voyez, un article un peu technique, qui n'a pas eu un très gros succès, qui n'avait qu'une seule page, et dans la dernière ligne de l'article, ils écrivent « Nous ne connaissons pas la source de ce parasitage, peut-être que ça serait ce rayonnement primitif dont a parlé Gamow ». Résultat prix Nobel. Autrement dit, nous comprenons, dans ces années 60, qu'il y a un rayonnement primitif. On se dit, mais voyons, s'il y avait un rayonnement primitif, on doit en avoir trace aujourd'hui. Je prends l'image suivante. Vous êtes en ce moment en train d'écouter France Culture, j'imagine dans une pièce ou dans votre voiture, que sais-je. Imaginez quelqu'un rentre en courant avec une fiole de gaz à 3000 degrés et qu'il casse la fiole de gaz dans votre pièce et qu'il part en courant. Ben, si vous mettez un thermomètre à l'instant, il casse la fiole, il marquera 3000 degrés. Si vous le mettez une seconde plus tard, il marquera 2700 degrés ou 800 degrés. Si vous le mettez une heure plus tard, il marquera, je ne sais pas, 100 degrés ou 200 degrés. Si vous le mettez un mois plus tard, il marquera la température de la pièce plus epsilon. Autrement dit, on s'est posé la question, est-ce qu'il reste un fossile quelque chose, ce rayonnement primitif. Et ce rayonnement fossile a effectivement été découvert par une succession de satellites, un satellite américain qui s'appelait Kobe, des années 90, un autre satellite américain qui s'appelait WMAP, des années 2000, et un satellite européen qui s'appelait Planck, des années 2010. Vous voyez d'ailleurs la différence entre les États-Unis et Europe. Les États-Unis, tout de suite, ont fait un satellite très vite, pas très cher, très vite, prix Nobel. L'Europe a fait quelque chose de parfait, très bien, 20 ans plus tard. L'Europe a beaucoup mieux travaillé avec les États-Unis, mais plus tard. Et comme ça, l'Europe pourrait quelquefois réagir plus vite devant les nouvelles. Mais enfin, Planck est un très beau satellite qui a fait de très belles mesures. Et ses premiers résultats ont été dévoilés au mois de mars 2013 et vous donnent ce rayonnement primitif. Et alors là, on comprend, l'analyse est un petit peu technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, on comprend que cette expansion a commencé il y a 13,82 milliards d'années. Les astronomes se sont disputés. Pendant 30 ou 40 ans, certains disaient l'univers a 10 milliards d'années. D'autres disaient il a 20 milliards d'années. Alors ceux qui disaient 10 milliards étaient critiqués parce qu'il y a des étoiles qui sont plus vieilles que ça. On ne va pas former une étoile avant l'univers. Et ceux qui disaient 20 milliards étaient critiqués parce que c'était en contradiction avec d'autres observations. Et d'ailleurs, quand j'invitais des collègues à dîner chez moi, je me gardais bien d'inviter les tenants des deux écoles en même temps. Je tenais à garder ma vaisselle. La dispute était très forte. Et nous avons maintenant la réponse, c'est 13,82 milliards d'années. Mais attention, quand je vous dis que l'univers a 13,82 milliards d'années, ça ne veut pas dire que c'est le début. Rien ne nous indique que c'est le début de l'histoire. Simplement, nous, astronomes, nous sommes capables de vous raconter ce qui s'est passé depuis 13,82 milliards d'années. C'est quand même pas mal, par rapport à ce qu'on connaissait il y a seulement quelques dizaines d'années. Et alors maintenant, la question du début est posée. Comment tout ça démarre? Comment ça se passe? Alors là, nous avons un problème. C'est que pour décrire le début, où tout serait rassemblé sous un tout petit volume, nous avons une théorie, la mécanique quantique, inventée dans les années 1930, qui est la physique de l'infiniment petit, et qui est d'ailleurs grâce à ça qu'on a inventé vos téléphones portables, le laser et tous les instruments que nous avons autour de nous, dans les voitures, les avions, les ordinateurs et chez vous. Donc c'est une théorie qui marche, qui a plein d'applications. Et puis d'autre part, puisqu'on parle de l'ensemble de l'univers, nous avons une autre théorie, qui est la relativité générale, dont je viens de vous parler. Le problème, c'est que ces deux théories sont incompatibles. Alors, y a-t-il une théorie de l'infiniment grand pour ce qui est grand, une théorie de l'infiniment petit et puis une théorie différente? Ou bien est-ce que ce sont toutes les deux fausses? Ou bien est-ce qu'il y en a une qui est fausse? Là, il y a un problème qui n'est pas résolu. Et en tout cas, dans ces conditions très ramassées du début, aucune de ces théories ne marche. Autrement dit, nous n'avons pas de théorie pour expliquer ce tout début. On parle même de 10 puissance moins 43 secondes après le début, ce qu'on appelle le mur de Planck. Je ne veux pas être technique, je veux juste vous donner les grandes idées. Simplement, la théorie manque. Alors, se pose le problème suivant. Parler de début dans le cadre de la société générale n'a pas de sens. C'est un peu comme si j'étais au pôle Nord et que je demande où est le Nord. Pas de sens. Donc il n'y a pas de début dans ce cas-là. Ou alors il faut une autre théorie. Beaucoup de physiciens en ce moment essaient d'inventer une théorie quantique de la gravitation. Et c'est des gens extrêmement brillants, avec des outils mathématiques extrêmement complexes. C'est en cours, on travaille dessus. Pour l'instant, on n'a pas les observations, les tests qui permettent de dire « ça, il y en a trouvé ». On a inventé plein de théories, la théorie des cordes, la théorie... Je ne veux pas vous décrire tout cela, mais les théories foisonnent. J'ai un petit dessin humoristique que je ne peux pas vous montrer à la radio sur France Culture, mais on voit un monsieur assis à un bureau avec deux paniers. Et dans un panier, il y a écrit les théories, et ça, les dossiers montent jusqu'au plafond, et dans l'autre, il y a les preuves, et là, le panier est vide. Et donc, on est en train de chercher. C'est comme ça que se passe la science, hein. C'est sans arrêt une question de nouvelle, on est en train de chercher cela. Et donc, cette lumière fossile nous donne des informations. Cette lumière fossile a été émise 380 000 ans après ce temps zéro, d'il y a 13,82 milliards d'années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu imaginer que cette lumière fossile était homogène, isotrope, la même dans toutes les directions. Pas du tout. Il y a de toutes petites différences de température entre différents endroits. Actuellement, vous voyez le ciel est une sphère, et si je projette la carte du ciel sur un plan, un peu comme je peux projeter la carte de la Terre sur un plan, j'ai l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, etc., et ben, j'ai les étoiles, les galaxies, etc. Et bien, dans la carte du ciel, 380 000 ans après le temps zéro, j'ai un ensemble de points un petit peu rouges, de points bleus, marquant des différences de température. Et ce qu'il faut comprendre, c'est parce que l'univers était différent à différents endroits au début que nous sommes là, que vous écoutez en ce moment France Culture, sinon nous ne serions pas là. C'est comme ça qu'ont été formées les étoiles, c'est comme ça qu'ont été formées les planètes, c'est comme ça que la vie est apparue. Et donc, dans cette, comment dirais-je, dans cette quête, nous avons un gros problème. C'est que nous, astronomes, nous sommes capables de mesurer la masse des objets. C'est pas très difficile de mesurer la distance d'un objet en astronomie. C'est comme quand la nuit, vous êtes au volant de votre voiture, vous voulez doubler, vous voyez une voiture en face, bon, ben, vous voyez si vous avez le temps de doubler ou pas. Alors évidemment, si c'est une Ferrari et qui a une lampe électrique, vous vous trompez. Ou si c'est une De Chaux qui a un phare de marine, vous vous trompez aussi. Mais imaginons une voiture traditionnelle, vous savez si vous passez ou non. Donc, on a la distance d'un objet, on a la lumière qui arrive sur Terre, et donc on peut facilement mesurer la quantité d'énergie qui est partie de l'objet. Il y a une autre manière de mesurer la masse, la quantité d'énergie, c'est que plus un objet est gros, plus il émet de la lumière. Donc, il y a un lien entre l'énergie émise et la masse. Et une autre manière de mesurer la masse, c'est ce qui bouge. Loi d'Einstein, loi de Newton. Quand un objet bouge, tourne très vite autour d'une galaxie, c'est que la masse centrale est importante. Quand un objet tourne très lentement, la masse centrale est moins importante. Et le problème, c'est quand on veut mesurer la masse avec ce qui brille et la masse avec ce qui bouge, vous trouvez un facteur 10 d'écart. Donc, il semble que 90% de la matière de l'univers soit une forme totalement inconnue. Et comme on ne sait pas ce que c'est, on l'appelle matière noire. Rien à voir avec la peinture noire, le corps noir, le trou noir. Noir, ça veut dire qu'on n'y comprend rien. Donc 90% de l'univers, ça fait de matière noire. Et ce n'est pas fini. L'expansion de l'univers, découverte par Hubble. Moi, pendant 40 ans, j'ai appris à mes étudiants que cette expansion devait être freinée, puisqu'il y a des galaxies qui s'attirent mutuellement. Et donc je me demandais si le grand boom, le Big Bang, était suivi d'un grand effondrement. Je ne savais pas. Et bon, ça dépendait de la densité de l'univers. Eh bien, nous avons trouvé, il y a une dizaine d'années, que l'expansion de l'univers s'accélère. Mais ce n'est pas possible d'accélérer quelque chose, parce qu'il faut de l'énergie. Et il n'y a pas d'extérieur, l'univers c'est tout. Il n'y a pas de source d'énergie d'extérieur. Alors, il faut imaginer qu'il y a l'énergie à l'intérieur. Puisqu'Einstein nous a appris que matière et énergie, c'est la même chose. La matière est une forme condensée d'énergie. Donc, il existe de l'énergie noire. Noire, ça veut dire qu'on ne comprend rien. Et donc, en gros, quand je fais le bilan de ce qui compose l'univers, on trouve que 68,3% du total est composé d'énergie noire, dont on ignore totalement la nature, que 26,8% est de matière noire, dont on ne sait absolument pas ce que c'est, et 4,9% est fait d'atomes et de molécules, ce qui nous compose nous, et sur les 100% de l'univers, nous astronomes, nous n'en avons trouvé pour l'instant qu'1%. Donc après 6000 ans d'efforts, nous n'avons, comme inconnu, 99%. Donc vous voyez, nous ne sommes pas prêts d'être au chômage, l'aventure continue. Certains même prétendent que matière noire et énergie noire n'existeraient pas, qu'en changeant les lois on se débrouillerait, la polémique bat son plein, mais de toute manière c'est ça la science, la caractéristique de la science c'est ça, c'est le fait qu'elle est vivante, qu'elle change, qu'elle évolue, ce qui n'évolue pas est mort en quelque sorte. Et donc maintenant nous pouvons nous demander d'où viennent ces étoiles qui ont fabriqué les atomes qui nous composent. Posons-nous la question, comment former une étoile? Quelle est l'origine des étoiles? Et cette question revient à se demander, quelle est notre origine à nous? Puisque les étoiles, ce sont elles qui forment nos atomes, ce qui nous compose. D'une certaine manière, nous sommes les enfants des étoiles. Alors d'abord, définissons, qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Pendant des millénaires, les hommes ont ignoré la nature des étoiles. Ils adoraient le soleil, les Mayas, les Incas, beaucoup de civilisations ont traité le soleil comme un dieu. Ils avaient compris que le soleil était une source de lumière, une source de chaleur. Ils ont mis très longtemps à comprendre que le Soleil était une source d'attraction. Ça, c'est après Newton seulement. Mais quelle est la nature du Soleil? Et ils ont mis très longtemps à comprendre d'où venait l'énergie du Soleil. Savez-vous que nous avons compris quelle était la source d'énergie du Soleil seulement après 1945? Donc, c'est récent. Alors, une étoile, c'est tout simplement une boule de gaz. La boule de gaz, elle est composée pour l'essentiel d'hydrogène et d'hélium. 99% de la matière, c'est hydrogène et l'hélium. Et de quelques atomes, un petit peu plus lourds, mais sous une très faible proportion. Eh bien, vous comprenez fort bien qu'une boule de gaz, qui est tenue par sa seule gravitation, si je pénétrais à l'intérieur, la température augmente, la pression augmente, la densité augmente. Et si je suis près du centre, là, j'atteins des températures de l'ordre de millions de degrés, des pressions colossales de l'ordre de centaines de millions d'atmosphères, des densités colossales. Et donc, c'est ça, une étoile. Alors, d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on devient étoile? Il n'y a pas des fabriques d'étoiles comme il y a des fabriques de voitures. Il n'y a pas une fabrique d'étoiles. Mais par contre, ce qui va déterminer le devenir d'un corps, c'est sa masse. On ne devient étoile que si, à un moment donné, on a une masse qui est comprise entre un dixième de la masse du Soleil et 100 fois la masse du Soleil. C'est-à-dire, si dans l'espace, j'isole un globule de matière par n'importe quel processus, que ce globule a une masse inférieure à un dixième de la masse du Soleil, ça ne deviendra jamais une étoile. Et si c'est une masse supérieure à 100 fois la masse du Soleil, ça ne deviendra jamais une étoile. Pourquoi? Parce que vous comprenez que pour qu'une étoile fonctionne, il faut qu'il y ait des réactions thermonucléaires au centre. Pour que les réactions thermonucléaires fonctionnent, il faut atteindre au centre une pression suffisante, une température suffisante. C'est-à-dire une pression de l'ordre de quelques centaines de millions d'atmosphères, une température de l'ordre de quelques dizaines de millions de degrés. C'est ce qui se passe pour le Soleil. Eh bien, pour cela, si la masse est trop faible, jamais on atteint ces pressions et ces températures extrêmes. Et si la masse est trop forte, la quantité d'énergie est tellement grande que l'objet est instable. Donc, pour devenir étoile, il faut naître dans un certain domaine de masse. Alors, qui a compris cela? Eh bien, à nouveau, quatre personnes ont joué un rôle. Albert Einstein, 1915, Arthur Eddington, 1920, Jean Perrin, 1930, Hans Bethe, dans les années 40. Jean Perrin étant le français de la bande. Albert Einstein, donc, lui, il nous donne la théorie, la réalité générale, nous expliquant que matière et énergie, c'est la même chose, et que l'énergie, que la matière peut se transformer en énergie, la réaction thermonucléaire. Arthur Eddington est un astrophysicien anglais, qui, lui, écrit les équations de la structure du Soleil et nous permet de comprendre la variation de la température, de la densité à l'intérieur. Jean Perrin est un physicien français qui comprend que les réactions thermonucléaires peuvent fournir de l'énergie. Au passage, je vous rappelle que le gouvernement l'avait nommé ministre de la Recherche à une époque où on nommait ministre de la Recherche quelqu'un qui était au courant du sujet. Et Hans Bethe, physicien allemand, lui, étudie l'équation qui transforme l'hydrogène en hélium. Et là, nous sommes dans les années 40. Eh bien, avec ça, nous comprenons que les réactions thermonucléaires sont la source d'énergie du Soleil, alors qu'au 19e siècle, on s'était posé la question, au début du 20e, on s'était posé, et on a mis très longtemps pour comprendre. Donc, les étoiles fonctionnent comme cela. Il faut avoir suffisamment de masse, mais pas trop, pour démarrer ce phénomène. Et nous voyons donc que, dans les domaines de masse qui nous concernent, nous avons trois types de corps. Les planètes, les naines brunes, qui sont les objets intermédiaires entre les étoiles et les planètes, et au sein desquels il n'y a pas de réaction thermonucléaire, mais qui ne sont pas des planètes, et les étoiles. Alors, les étoiles, elles sont fondamentales, puisqu'elles fabriquent nos atomes. Alors, on a envie de savoir comment tout ça démarre. Moi, quand j'étais étudiant à l'époque, mes enseignants m'avaient dit, « Tu sais, André, on ne verra jamais la naissance d'une étoile, parce que c'est un phénomène si rapide, qui dure si peu de temps, et si difficile à observer, que jamais on ne le verra. » Et j'ai eu la chance, au cours de ma vie, de vivre l'époque où on assiste, actuellement, en direct, à la naissance des étoiles. Non seulement on va dans la maternité où il y a plein de petites bébés étoiles qui sont en train de naître, mais on rentre dans la chambre où on a toutes ces images de petits bébés en train de naître. C'est tout juste, si on mettait le son, on entendrait « areux » du bébé en train d'émettre ses premiers sons. Et dans cette recherche, un satellite européen qui s'appelle Herschel vient de nous donner beaucoup de résultats. Au mois de mars 2013, il a maintenant épuisé, comment dirais-je, un espèce de réfrigérateur qui a épuisé ce qui permet le liquide refroidissant. Mais il a fourni plein de résultats, des dernières nouvelles. Donc, je vais vous parler dans quelques minutes. Alors, pour former une étoile, on comprend très bien qu'il y a du matériau interstellaire, c'est-à-dire de la matière très, 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 très peu dense qui existe. Et si à un moment donné, il y a un surcroît de densité, eh bien, ce grumeau qui va naître va attirer tout ce qui est autour et la matière va s'effondrer pour former une étoile. Ça, on en comprend l'idée. Alors, déjà, comment observer cela? Eh bien, quand la étoile se forme, alors déjà, on a trouvé cette matière entre les étoiles seulement au début du XXe siècle. C'est-à-dire que cette matière est très ténue, mais on l'a quand même découvert, et on trouve une espèce de cycle de la matière, qui est le plus grand cycle dans l'univers, à savoir que la matière interstellaire forme des étoiles, qui elles-mêmes meurent en redonnant du matériau extérieur, lequel matériau va former une nouvelle génération d'étoiles. Autrement dit, génération après génération, les étoiles se succèdent, et à chaque fois qu'une étoile a été fabriquée, elle fabrique quelques atomes. Autrement dit, le milieu est enrichi à chaque fois en atomes de plus en plus lourds. Alors, on a trouvé trois phénomènes majeurs dans la naissance des étoiles. Dans les années 1990, on a assisté en direct à la naissance des étoiles grâce au rayonnement infrarouge. Pourquoi ? Parce qu'en lumière visible, les étoiles naissent dans des cocons avec de la poussière, un peu comme un bébé qui serait dans son berceau entouré par des langes. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais le rayonnement infrarouge, lui, de grande longueur d'onde, il passe à travers. Et passant à travers, on voit le bébé tout nu. Et on voit ce qui se passe exactement. Et donc là, on trouve deux choses essentielles. C'est que la naissance d'une étoile, il y a des disques qui se manifestent dans le plan de l'équateur et des jets de matière qui sont expulsés, essentiellement dans la région polaire. Alors là, c'est un progrès fantastique parce que, en gros, on comprend que la naissance d'une étoile est difficile. La naissance est douloureuse. Ce n'est pas un phénomène très doux. Et donc, dans la manière, on pensait que ça se passait vraiment pas du tout. C'est très violent. Il se passe de l'effondrement, des collisions, des explosions. C'est très violent. Ces jets de matière expulsent du matériau qui explique des phénomènes qu'on avait observés au siècle dernier, enfin au 19e siècle, et qu'on n'avait pas pu interpréter. Et ces disques de matière qui apparaissent dans le plan de l'équateur, ça c'est fantastique. Parce qu'on se dit, mais voyons, il y a là un disque de matière. Est-ce que ça ne serait pas un disque dans lequel on pourrait former des planètes un jour ? Alors la question est posée, elle n'est pas vraiment résolue encore, mais on se dit qu'on a un endroit favorable pour former des planètes. En d'autres termes, la naissance des étoiles s'accompagne de la formation et de jets et de disques, donc quelque chose de fondamental dans les découvertes des années 90. Et là, depuis le début de l'année 2013, on vient de trouver autre chose, c'est une découverte européenne, en particulier française, à savoir que la matière, dans la matière interstellaire, ne va pas n'importe où, mais se répartit en filaments. Attention! Ces filaments n'ont rien à voir avec ces filaments qui forment les galaxies, les amas de galaxies. Non, non, c'est très différent. C'est à une échelle beaucoup plus petite. Mais en gros, la matière se répartissant en filaments, à l'endroit où deux filaments se croisent, il y a un excès de densité. Qui dit excès de densité dit que la gravitation est forte, dit donc que la chute est accélérée, et c'est là où se forment les étoiles. Et donc ça, c'est une découverte tout à fait récente sur ces filaments. Donc disque, jet, filament, c'est ce qu'on vient de trouver depuis les 15 années qui précèdent et qui nous permet de mieux comprendre cette formation des étoiles. Et là, quand on dit ce qui se passe, on voit qu'il y a, en parlant très grossièrement, deux types d'étoiles. Il y a les grosses. Elles sont tellement grosses qu'elles émettent beaucoup d'énergie. Elles sont très actives. Et en leur centre, elles fabriquent des atomes. La température au début est très chaude, est très élevée. Donc l'hydrogène s'en transforme en hélium. Quand l'hydrogène était brûlé, l'hélium est compressé, condensé, il se transforme en carbone. Et puis ensuite on fait de l'oxygène et on fait tous les atomes de la table, des atomes, la table trouvée par Mendeleïev, des atomes. Donc autrement dit, les étoiles fabriquent en leur sein des atomes. Et c'est les plus massifs qui font cela. Jusqu'au fer. Une fois qu'on a fabriqué des atomes de fer, on ne peut pas monter au-delà. On ne peut pas faire de l'or, du platine, de l'uranium, parce que faire des atomes plus élevés demanderait d'apporter l'énergie. C'est-à-dire, au lieu de fournir l'énergie, il faudrait en apporter. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'histoire de l'étoile, c'est comme celle de Pénélope. Vous savez, Pénélope, attendant le retour de son mari, défaisait la nuit la tapisserie qu'elle avait faite pendant la journée. Et brutalement, quand une étoile a fabriqué du fer, elle défait tout d'un coup, elle s'effondre sur elle-même. Et s'effondrant sur elle-même, ça rebondit et elle explose. C'est un peu comme un tube de télévision ancien, pas les écrans plats, mais les écrans à tube cathodique. Si un jour vous avez une émission tellement mauvaise, vous êtes énervé, donnez un coup de marteau dans le poste de télévision, il s'effondre sur lui-même, et en s'effondrant sur lui-même, il rebondit et il vous met du verre partout. Eh bien, ces étoiles qui explosent, c'est ce qu'on appelle les supernovées. Et vous comprenez que les atomes qui ont été fabriqués à l'intérieur sont projetés à l'extérieur. Et c'est ça, c'est comme ça que nous naissons. Tous les atomes constituent votre corps. Dans votre corps, il y a un petit peu de magnésium, il y a un petit peu de calcium, il y a un petit peu de fer. Vous allez chez le médecin, on dira, vous manquez du calcium, vos os sont pas... Alors, vous donnez un petit peu une pilule, etc. Tous ces atomes ont un jour été fabriqués dans une étoile, qui n'est pas le Soleil bien entendu, et qui pour communiquer à l'extérieur ces éléments, eh bien a explosé. Autrement dit, nous sommes les enfants de ces supernovas, les enfants de ces étoiles. Ce qui fait d'ailleurs que quand la police devient trop insistante sur mon identité et me demande mon âge, je lui réponds que mon âge est compris entre 6 et 12 milliards d'années, âge auquel mes atomes ont été fabriqués, et que le reste c'est ma vie privée, qui ne les regarde pas. Et nos atomes, ils ont vécu leur vie. C'est-à-dire que madame qui m'écoutait, l'atome qui forme vos cheveux, un jour était sur la queue d'un dinosaure ou sur la corne d'un escargot. Monsieur qui m'écoutait, l'atome au bout de votre nez, eh ben, il était au jour au sommet d'une montagne, etc. Ces atomes se transforment successivement pour donner, pour vivre leur vie et donner à un moment donné vous-même, qui ensuite disparaissait après votre mort, etc. Donc en gros, les étoiles les plus massives vont fabriquer des atomes, mais ne vivent pas longtemps. C'est quand on fait la fête, c'est merveilleux, mais ça ne dure pas longtemps. Pas longtemps en astronomie, ça veut dire quelques dizaines de millions d'années. Et puis il existe les petites étoiles. Alors les petites, elles font des économies, elles ne font pas la fête, elles s'ennuient beaucoup, beaucoup, pendant très 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 longtemps. Mais elles ont une vertu. C'est qu'ils nous apportent de la chaleur. Et donc, ces étoiles qui ont explosé ont formé nos atomes, et nous avons la chance d'être près d'une étoile Soleil, qui est une petite étoile, et qui nous apporte de la chaleur pendant des milliards d'années. Sans cela, la vie n'aurait jamais pu apparaître sur Terre, sans cela, nous ne serions pas là. Donc nous avons les petits et les massifs. Alors, vous allez dire, quelle est la naissance des étoiles, mais quelle est leur mort aussi? Eh bien, c'est très simple, les étoiles, quelles qu'elles soient, elles ont trois manières de finir leur vie. Le Soleil, d'abord. Eh bien, le Soleil... qu'est-ce qui va se passer? Il va, comment dirais-je, à un moment donné grossir, deviendra une géante rouge, nous en reparlerons, et il devient ce qu'on appelle une naine blanche, c'est-à-dire un objet qui a la masse du Soleil et la taille de la Terre. C'est un objet où c'est très, très, très dense et très petit. Une étoile beaucoup plus massive finira ou bien sous forme d'étoile à neutrons, ou bien sous forme de trou noir. C'est-à-dire un objet qui a la masse du Soleil, enfin plutôt 3-4 fois la masse du Soleil, puisqu'il est plus massif, et la taille de l'île de la Cité. Plus petit que la ville de Paris. Autrement dit, vous voyez, ces fabriques d'atomes ou ces fabriques de chaleur qu'ils sont, eh bien, finissent leur vie de manière tout à fait différente. De ceci, nous en parlerons. Et vous comprenez donc bien que nous avons le plus grand cycle qui existe dans l'univers, c'est le cycle de la matière, où une étoile en explosion répartit sa matière aux alentours, et donc nous avons de la matière interstellaire. Cette matière interstellaire est très peu dense, puisque dans un centimètre cube de matière, un centimètre cube, c'est une cuillère à café. Vous avez un ou deux atomes. L'air que vous respirez en ce moment dans un centimètre cube de matière, il y a un suivi de 19 zéro atomes. C'est donc beaucoup plus dense. Donc c'est plus vide que le vide le plus parfait sur Terre. Mais c'est sur des distances énormes. Et cette matière interstellaire, nous l'analysons, nous l'étudions, nous trouvons de plein de choses. On a trouvé plus de 150 atomes dans l'univers, entre les étoiles. Il y a bien entendu de l'eau. Si vous voyagez entre les étoiles, il y a plein d'eau, pas de souci. Il y a du propane, il y a du butane, il y a un tas d'atomes. Il y a même de l'alcool éthylique, ce qui montre d'ailleurs que le milieu interstellaire est civilisé. Donc il y a une grande variété de matières, et c'est ça la source de production des étoiles. Et cette matière se condense dans une étoile, qui ensuite une étoile massive ou pas massive, et puis elle-même va ensuite disparaître en redonnant de la matière. Et vous comprenez donc bien que l'histoire de l'univers, c'est à chaque génération d'étoiles, on va apporter un peu plus d'éléments plus lourds. C'est-à-dire que on va avoir des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. C'est-à-dire qu'au début de l'histoire de l'univers, vous n'avez que de l'hydrogène pratiquement. Pourquoi l'hydrogène? Parce que l'hydrogène, c'est l'atome le plus simple. C'est un noyau, qui est un proton, et un électron autour. L'hélium, c'est déjà un peu plus compliqué. Il faut 4 atomes d'hydrogène pour faire un atome d'hélium. Et puis vous avez le beryllium, vous avez le bore, vous avez le carbone, vous avez l'oxygène, vous avez l'azote, vous avez l'aluminium, vous avez le chlore. Enfin, je ne vais pas vous décrire tous les éléments. Ces éléments, eux, sont fabriqués dans les étoiles. Et vous avez compris qu'il y a trois manières de former les éléments qui forment notre monde. On est formé ou bien au tout début de l'univers, c'est-à-dire il y a 13,82 milliards d'années, là on forme l'hydrogène et l'hélium. Ou bien on est formé dans les étoiles, et c'est comme ça qu'on forme l'oxygène, l'azote, le chlore, l'aluminium, tous les éléments jusqu'au fer. Ça, c'est là ce qu'on appelle la formation stellaire des étoiles. Ou bien on est formé au moment de l'explosion d'une étoile. Quand une étoile explose, elle envoie ce qu'on appelle un flux de neutrons, donc il y a un bombardement énorme. Et là, on forme des atomes très lourds, c'est-à-dire l'or, le platine, l'uranium, etc. C'est tout simplement pour ça que le platine et l'or, ça coûte plus cher que l'aluminium, parce qu'il y en a moins. C'est plus rare. Et donc, c'est fabriqué à ce moment-là. Il y a trois manières de former nos atomes, et c'est ces trois manières que nous avons compris, en quelque sorte. Et nous savons que l'univers, le temps s'écoulant, eh bien, va fabriquer des éléments de plus en plus lourds. Et au passage, vous voyez, je vais parler de la notion de temps. Et le temps, c'est une notion que nous avons beaucoup de peine à comprendre. puisque la mécanique quantique a une notion du temps qui n'a rien à voir avec le temps de l'entité générale. Et notre temps à nous que nous vivons, est-ce que le temps biologique, c'est la même chose que le temps des horloges ? Nous savons bien que le temps est très subjectif. En ce qui me concerne, quand je passe une minute dans les bras d'une très jolie dame, elle me paraît durer moins longtemps qu'une minute dans les bras d'un dentiste pourtant sympathique. Hein, donc c'est très subjectif. Nous savons aussi, l'histoire du voyageur de Langevin, que quand vous avez deux jumeaux sur Terre, s'il y en a un qui va faire un voyage dans les étoiles et qui revient, il va vivre 20 ans pendant que son jumeau sur Terre, lui, aura vécu 80 ans. Autrement dit, nous en avons la preuve. Les horloges qu'on place sur des avions qui partent vers l'est ou vers l'ouest nous montrent cette différence. Et la grande question, c'est ce que nos cellules, est-ce que nous-mêmes vivrions différemment ? Donc vous voyez, quand nous parlons des histoires de l'origine, origine de l'univers, origine des étoiles, origine de nous-mêmes, nous avons des problèmes avec la notion du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Est-ce que le temps est indépendant de l'espace ? Est-ce que le temps est lié à l'espace ? Est-ce que le temps est une notion... Est-ce que le temps est né ? Est-ce qu'un jour le temps est né ou non ? Vous savez, on dit souvent, le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Autrement dit, nous avons beaucoup de questions qui se posent. Et vous comprenez ce qui est merveilleux en science, c'est qu'à chaque fois qu'on se pose une question, 10 nouvelles questions naissent. Donc c'est encore mieux qu'en roman policier. Parce qu'en policier, un jour, vous lisez la dernière page, vous êtes content, vous avez lu un superbe roman. Mais là, on n'atteint jamais la dernière page. Ce qui fait que c'est une aventure qui n'a pas de fin. Et en même temps, c'est la culture qui progresse. Donc finalement, si je résumais bien, nous avons appris beaucoup de choses sur les origines de l'univers, beaucoup de choses sur l'origine des étoiles, beaucoup de choses sur l'origine de nos atomes, mais nous avons beaucoup plus de questions aujourd'hui que nous n'en avions il y a simplement un siècle. Eh bien, maintenant, la question qui est posée, une fois qu'on a formé des étoiles, est-ce qu'on forme des planètes autour ? Alors ça, c'est toute une histoire dont nous allons parler prochainement.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom.
C'était « Dernières nouvelles de l'univers » par André Brahic. À la technique, Pierre Mine. À la réalisation, Angélique Thibault.